Je vous invite à suivre la lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille. Venez à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle. Celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j'ai promise à David. Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander au peuple. Oui, tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Une nation qui ne te connaît pas va accourir vers toi. C'est à cause de moi, moi, l'Éternel, ton Dieu, moi, le Saint d'Israël, qui te couvre de gloire. Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retourne jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront. Où croissent les broussailles, poussera le cyprès. Et au lieu des orties, croîtra la myrte. Ce sera un titre de gloire pour l'Éternel, et ce sera un signe qui ne disparaîtra jamais.
Voilà 7 jours que nous avons fêté Pâques et la résurrection de Jésus. Voilà 7 jours que nous avons célébré celui qui nous offre un si grand salut. Et voilà 7 jours que 2 d'entre nous ont témoigné de leur volonté de se saisir de ce si grand salut, de leur volonté d'ouvrir leur porte à Dieu et de l'accueillir dans leur vie. Car oui, nous sommes appelés à recevoir ce salut qui nous est offert à Pâques. Recevoir pour pouvoir être réconcilié avec Dieu, pardonné et sauvé de sa colère. Recevoir pour pouvoir être dès maintenant en paix avec lui et un jour au ciel à ses côtés. Oui, voilà ce qui nous est offert par l'œuvre de la croix et la victoire du tombeau vide, et c'est une merveilleuse promesse. Je vous invite toujours en cette période de Pâques à continuer d'approfondir cette promesse et cette question du salut de Jésus-Christ. Et je vous invite plus exactement, encore à travers notre texte d'Ésaïe qu'on a lu, à continuer de découvrir ou de redécouvrir les profondes vérités que ce salut contient. Il y a de cela 15 jours, nous avons abordé la première partie de ce thème et la première de ces vérités, la gratuité. Venez acheter sans argent, nous disait Dieu. Ce matin, en prenant appui cette fois sur le verset 2 d'Ésaïe 55, j'aimerais vous proposer d'explorer une autre facette du salut de Jésus-Christ, à savoir sa suffisance. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Oui, ce que Dieu veut nous offrir semble être, d'après ce texte en tout cas, la seule et unique nourriture suffisante pour nous. C'est-à-dire la seule et unique nourriture vraiment capable de nous nourrir en profondeur. Et nous allons donc creuser cette affirmation de l'Écriture, car on l'imagine, si c'est effectivement le cas, il y a ici un gros enjeu. Et à cet effet, je vous propose le cheminement suivant. Dans un premier temps, nous allons dire quelques mots sur ces aliments qui ne nourrissent pas, sur qui ils sont et sur pourquoi ils sont insuffisants, afin simplement de pouvoir les identifier dans nos vies. Puis ensuite, donc, nous verrons plus précisément pourquoi et comment ce que Dieu nous offre est effectivement la seule chose qui ait la capacité de réellement nous rassasier. Et enfin, nous conclurons en disant quelques mots sur les conséquences de cette vérité pour nos vies. Et nous démarrons avec le premier point. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Autrement dit, pourquoi consacrez-vous vos vies à des choses qui ne vous rempliront jamais? Voici la première question qui nous est posée ce matin, à nous personnellement peut-être. Pourquoi consacres-tu ta vie à des choses qui ne te rempliront jamais, dit Dieu. Et on mesure immédiatement la tristesse et le non-sens d'une telle vie, d'une vie qui se consacre ainsi à poursuivre du vent, finalement. Mais alors, que veut donc dire Dieu ici? De quoi parle-t-il exactement? Quelles sont concrètement ces nourritures qui ne rassasient pas? Pouvons-nous les identifier? Ce sont des questions importantes à nous poser si on ne veut pas se leurrer à la poursuite du vent. Et pour ma part, j'en donnerai deux réponses aujourd'hui. Je relèverai deux de ces nourritures insuffisantes qui me semblent ressortir du sens de ce passage, mais aussi de l'Écriture dans son ensemble. La première réponse sera la conséquence de ce qui est sans doute la recherche la plus fondamentale de l'homme, la recherche du sens de notre vie, tout simplement. Trouver un sens à notre vie comme étant la nourriture qui va venir nous combler, nous rassasier en profondeur. Nous courons tous, je crois, d'une manière ou d'une autre, naturellement, après cela. Mais c'est bien là le problème majeur qui ressort de notre verset. Une course, oui, mais mal orientée. Des efforts constants, mais mal dirigés. Des labeurs incessants, mais vers ceux qui ne nourrissent pas. En fait, nous pourrions appeler cela l'illusion de la vie. L'illusion de la vie, c'est l'ensemble de tous nos efforts et de tous nos labeurs dans cette vie pour trouver un sens dans des réalités qui ne pourront jamais nous l'offrir pleinement. Et donc, la question nous est posée: où cherchez-vous le sens profond de votre vie? Où cherchez-vous? Dans vos biens, dans vos possessions, dans votre pouvoir d'achat? Est-ce là votre moteur? Dans cette capacité à jouir de la vie et à prendre ce qu'elle nous offre, à en profiter du mieux possible tant qu'on le peut? Ou bien alors cherchez-vous le sens de votre vie dans votre énergie à construire quelque chose, dans votre accomplissement par exemple, au travail ou ailleurs, dans ce doux sentiment d'être utile et reconnu pour qui vous êtes? Ou bien encore, cherchez-vous le sens de votre vie dans votre couple, votre foyer, votre famille, vos enfants, vos relations, et ainsi de suite? Oui, à quelle source vous remplissez-vous? Oui, à quelle source Nous remplissons-nous, nous demande implicitement ce verset. Et alors, toutes les choses que je viens de citer sont bonnes à n'en pas douter. Chacune à sa mesure, tout du moins. Je ne cherche pas à les remettre en question ici. Mais pourtant, aucune d'entre elles, soyons-en convaincus, même les meilleures, même les plus belles, aucune d'entre elles ne pourra nous combler au plus profond. Oui, toutes ne sont qu'illusions si elles deviennent notre source première de sens dans la vie. Elles ne sont qu'illusions simplement car elles n'étancheront jamais notre soif profonde. Elles ne nous rassasieront jamais complètement. Elles nous distrairont peut-être, comme le disait l'écrivain Tolstoï. Elles nous occuperont sans doute dans notre quête de sens. Elles colmateront plus ou moins certains de nos vides. Et peut-être que les plus belles d'entre elles les colmateront même plutôt bien. Mais à terme, pourtant, elles ne resteront qu'illusions et notre soif de sens sera toujours là. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que, comme le disait Blaise Pascal dans sa formule devenue célèbre, il y a en tout homme un vide en forme de Dieu. Et un vide que rien d'autre ne pourra combler. Non, rien d'autre que Dieu ne pourra combler le cœur de notre cœur. Il restera vide sans Dieu. Et alors, on pourra tenter de masquer ce vide. On pourra l'étouffer. On pourra le renier même. On pourra le remplir de tant et tant de choses plus belles les unes que les autres. Mais on ne pourra jamais réellement le rassasier pour de vrai sans Dieu. On ne pourra jamais, simplement parce que nous sommes des créatures en qui le Créateur a laissé sa marque et son empreinte. Et que cette marque et cette empreinte du Créateur ne peuvent se trouver ailleurs que dans le Créateur. Mais l'illusion de la vie, c'est donc persister à croire qu'on va finir, tant bien que mal, par y arriver à combler ce vide par un autre moyen que Dieu. Il y a dans la Bible un personnage qui a tout essayé dans la vie. Il a tout expérimenté. Il a vécu tout ce qu'on pouvait vivre. Et après tout cela, il nous a livré les conclusions de ses recherches. Je vous invite à l'écouter et à tirer profit de son expérience d'illusion. Vanité des vanités, dit le maître. Oui, vanité des vanités. Tout est dérisoire. L'œil n'est jamais rassasié de voir. L'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis procuré des esclaves et des servantes. J'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et j'ai eu ce qui fait les délices des hommes, de nombreuses belles femmes. Ainsi je devins puissant, et je surpassai tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, en plus, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais, je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon travail, et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis, j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir, et je me suis rendu compte que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Vanité des vanités, dit le maître, tout est dérisoire. Tout est illusion. Pourquoi? Parce que tout disparaîtra un jour. Toutes ces choses disparaîtront. Et dans la même idée, on peut aussi penser à cette réponse un peu mystérieuse que Jésus lui-même fera à la femme samaritaine. Celui qui boit de cette eau, lui dira Jésus, aura de nouveau soif. C'est-à-dire, il ne sera jamais rassasié. Mais par contre, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus, on le voit, nous donne ici une promesse, une réponse à l'illusion de notre vie. Nous y reviendrons. Mais d'abord, nous poursuivons et nous continuons maintenant avec la deuxième nourriture qui ne nourrit pas. Après nos efforts pour trouver le sens de notre vie dans ce monde, voici une autre illusion, pile dans le contexte de nos versets. Nos efforts pour gagner notre salut. Nos efforts pour espérer, par nos vies, par notre moralité, par nos œuvres, par notre obéissance à Dieu, espérer accumuler une nourriture suffisante pour être trouvé suffisant devant lui. Nous avons longuement abordé cette question il y a 15 jours. Je n'y reviens donc pas dans le détail maintenant, mais rappelons-nous encore une fois néanmoins le danger de ce mirage si naturellement humain. Le danger de croire que l'on finira par avoir assez pour Dieu et qu'il nous acceptera au vu de notre vie plutôt correcte. Alors que la Bible nous dit tellement le contraire. Et elle nous dit tellement le contraire, notamment quand elle met sans concession devant nos yeux la réalité de notre péché. Ce péché qui a construit une barrière infranchissable entre Dieu et nous et qui nous prive donc de fait de son salut. L'apôtre Paul, qui était pourtant particulièrement juste par ses mérites, l'apôtre Paul en faisait le constat pour sa propre vie. « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, dit Paul, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, et le mal que je ne veux pas, je le commets. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? Ou encore, dans sa lettre aux Galates, « Ah, sans doute, dit Paul, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu. Non, nos mérites ne nous rassasieront pas. C'est une certitude. Mais alors du coup, que dire après tout cela ? Que dire une fois que l'on a mis en avant, d'un côté, l'illusion d'une vie qui cherche son sens sans Dieu, et de l'autre, l'illusion d'une vie qui cherche à mériter Dieu ? Oui, que dire une fois que l'on a identifié ces deux nourritures qui ne pourront jamais nous remplir ? Eh bien, c'est à ce moment-là que nous allons enfin pouvoir commencer à parler de Jésus-Christ et de son si grand salut. C'est une fois et une fois seulement que ces deux illusions sont démasquées qu'alors le salut de Jésus va enfin pouvoir entrer en scène. Écoutez, oui, écoutez-moi, dit Dieu. Alors vous mangerez ce qui est bon. Alors vous vous délecterez d'aliments savoureux. Un si beau verset. Et une belle perspective, n'est-ce pas ? Se délecter d'aliments savoureux, nous en avons tous envie, je pense. Aussi, nous allons essayer de bien comprendre ce que cela signifie. C'est-à-dire, nous allons essayer de comprendre comment ce que Jésus propose de nous offrir peut à la fois contrer notre illusion d'une vie qui aurait du sens loin de Dieu, contrer notre illusion d'une vie qui serait suffisante pour Dieu, et en même temps combler ces deux réalités, la recherche du sens et la recherche du salut, les combler pour de vrai. Mais pour pouvoir comprendre cela, il va nous falloir, me semble-t-il, bien comprendre en fait ce qui arrive à notre péché dans cette histoire. Oui, que lui arrive-t-il quand il est amené à Jésus-Christ et qu'il est traité, entre guillemets, par son œuvre sur la croix? Je crois que c'est vraiment la compréhension de cela, de ce rapport au péché, qui va nous aider à mieux appréhender nos questions aujourd'hui. Alors allons-y, si vous le voulez bien, parlons de ce qui se passe réellement pour notre péché lorsque Jésus paie pour lui à la croix. Et je vous propose de prendre d'abord deux images que l'on trouve dans la Bible et qui vont nous donner un premier éclairage pour avancer. La première image se trouve dans le livre de Michée au chapitre 7 et versets 18 et 19, je vous lis ce texte. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés et, au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Voici un texte qui nous parle donc du péché et de ce que Dieu en fait à travers l'œuvre de Jésus. Par cette œuvre, nous découvrons ici que Dieu va jeter nos fautes au fond de la mer. Alors c'est une image, évidemment, mais quand même, que nous enseigne-t-elle au fond? J'aimerais vous inviter à faire une expérience. Les beaux jours arrivent et peut-être irez-vous bientôt faire un tour à l'océan, à Hendaye, disons, par exemple. Alors ce jour-là, faites le test suivant. Prenez une pièce de 2 euros. Marquez-y votre prénom dessus. Placez-vous au bord de l'eau. Et puis, de toutes vos forces, lancez la pièce. Ensuite, rentrez chez vous. Attendez quelques semaines. Puis, retournez à l'océan. Mais sur une autre plage cette fois-ci, puisque tout communique après tout. À Arcachon, par exemple, plus au nord. Et puis là, entrez dans l'eau et commencez à chercher votre pièce. Si vous arrivez à la retrouver, alors peut-être que Dieu arrivera aussi à repêcher vos fautes du fond de la mer. Vous voyez où je veux en venir? Ce n'est pas sérieux. Nous savons intuitivement que lorsque nous jetons quelque chose dans un océan si immense, nous ne le retrouverons jamais. Mais je vous inviterai quand même presque à la faire pour de vrai, cette expérience. Tant pis pour les 2 euros. Mais ne serait-ce que pour comprendre symboliquement, pour visualiser ce que Dieu fait réellement de tous nos péchés à la croix. Il les jette au fond de l'océan, et il ne veut plus jamais en entendre parler. C'est la Bible qui le dit. Deuxième image et deuxième éclairage, avec le psaume 103 au verset 12. Nous lisons « Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. » Et je vous propose une deuxième expérience, mais un peu plus contraignante à réaliser peut-être. Placez-vous sur un point précis du globe, place Clémenceau à Pau par exemple, et marchez. Ou alors utilisez tout autre moyen de locomotion, peu importe, mais avancez vers le nord tout d'abord, jusqu'à ce que vous atteigniez le pôle nord. Vous visualisez? Ce sera long, certainement. De plus en plus froid, sans aucun doute. Mais vous finirez par y arriver, n'est-ce pas, au pôle nord, si on continue toujours. On est d'accord? Mais maintenant, refaites la même expérience en avançant cette fois-ci non plus vers le nord, mais vers l'ouest, jusqu'à atteindre l'ouest. Que se passera-t-il? Eh bien, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais, simplement, car l'ouest sera toujours devant vous. Vous pourrez toujours aller un peu plus à l'ouest. Car autant il y a un nord objectif à la surface de notre globe, un nord que l'on peut atteindre même en partant de très au sud, autant il n'y a pas d'ouest objectif à atteindre en partant de l'ouest. L'ouest, en fait, est inatteignable. Il est toujours devant nous. Aussi, quand Dieu nous dit qu'il éloigne nos mauvaises actions autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, eh bien, il me semble qu'il vient nous dire qu'il les met à une distance infinie de nous. Quelque chose que l'on ne pourra jamais atteindre. Je m'arrête avec les illustrations. Mais alors, que nous disent-elles finalement toutes les deux? Que nous permettent-elles de conclure? Eh bien, elles nous montrent avec force que l'œuvre de Jésus sur la croix à Pâques a quand même une conséquence absolument radicale sur nos péchés. Ces images nous montrent que par cette œuvre, Dieu sépare nos fautes irrémédiablement de nous. Comme l'Ouest l'est infiniment de l'Est. Comme une pièce est pour toujours noyée au fond de l'océan. Dieu fait en sorte que nos péchés n'aient plus rien à voir avec nous. À ce sujet, l'apôtre Paul ira jusqu'à dire qu'à cause de ce qu'a fait Jésus, nous sommes morts au péché. Et il n'y a pas d'ambiguïté avec le mot qu'il utilise. Nous sommes morts au péché quand nous venons à Jésus. Voici la réalité incroyable qu'affirme l'Écriture en ce qui concerne notre rapport au péché. Ok. Mais alors du coup, on revient maintenant à ce qui nous préoccupe. Qu'est-ce que cette réalité implique pour notre réflexion du jour? En quoi cette mort au péché peut-elle à la fois détruire nos illusions et nous combler parfaitement? Je nous rappelle qu'il y a deux problèmes. Le problème d'une vie qui cherche vainement à mériter Dieu. En quoi notre mort au péché peut-elle résoudre cela? Et puis le problème d'une vie qui cherche son sens ailleurs qu'en Dieu. En quoi notre mort au péché peut-elle résoudre cela? Deux aspects donc. Et nous allons lire un dernier texte, une autre prophétie d'Ésaïe en fait, qui vient un peu, me semble-t-il en tout cas, nous faire sentir ces deux nuances de notre mort au péché. Ces deux nuances qui vont répondre en fait à nos deux problèmes. Je vous lis ce petit texte, c'est Dieu qui parle. C'est moi, moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Premier aspect de la mort au péché, on lit que Dieu efface nos crimes. C'est-à-dire qu'à la croix, Dieu vient rayer nos fautes de ses registres. Nous avons ici, je crois, une dimension légale de notre mort au péché. Tout ce qui nous condamnait devant lui, Dieu vient lui-même le rayer de ses tablettes. Dieu vient lui-même le faire disparaître. Grâce au sacrifice de Jésus, nos péchés n'ont plus aucune valeur légale. Ils n'ont plus aucun pouvoir juridique sur nous. En bref, ils ne peuvent plus rien nous faire. Nous sommes morts au péché au sens où nous en sommes quittes. Oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, si je saisis le cadeau de Jésus-Christ, je suis totalement quitte de tout mon péché devant Dieu. Et donc, conséquence immédiate, grâce à cela, en vertu de cela, à celui qui cherche encore en vain à mériter Dieu par ses propres efforts, d'une manière ou d'une autre. Et peut-être certains d'entre nous ici sont concernés. À celui-ci, à vous donc peut-être, Jésus vient dire « Arrête, arrête de continuer à croire que tu pourras combler par ta vie ce fossé qui s'est creusé entre toi et moi. Tu n'y arriveras pas, ton péché a construit des barrières trop grandes. Alors arrête. Mais par contre, regarde, regarde ce que moi j'en fais, dit Jésus. Regarde comment, moi, je le jette au fond de la mer pour de vrai, là où plus personne ne pourra jamais le retrouver pour t'en accuser de nouveau, là où plus personne ne pourra le remettre devant tes yeux et à ton compte. Regarde comment je te déclare juridiquement parfait. Oui, notre mort au péché a effectivement le pouvoir de détruire l'illusion d'une vie suffisante par nous-mêmes quand elle nous montre simplement que tout est déjà réglé entre le péché et nous. Et donc que tout est déjà réglé entre Dieu et nous. Il n'y a rien à ajouter. Le salut que Jésus nous offre est suffisant devant le tribunal de Dieu. Premier problème résolu. Mais en fait, on poursuit, je crois que ce texte va encore plus loin. Ou plutôt, je crois que Dieu va encore plus loin. Oui, Dieu va plus loin que de nous rendre quittes devant sa justice. Ce qui est pourtant déjà énorme, on est d'accord. Mais Dieu va plus loin, et par cette mort au péché, son salut va même jusqu'à combler notre vide en forme de lui. Et donc notre recherche de sens. Je m'explique avec une image. Il y a dans la classe d'un de mes enfants un jeune garçon particulièrement dur et qui a eu à de nombreuses reprises des comportements déplacés ou violents parfois, même envers les adultes. Tant et si bien qu'en fin d'année dernière, la coupe était pleine et il lui a été demandé de quitter l'établissement. Pourtant, l'été passant, les choses ont évolué et finalement, ce garçon a été autorisé à réintégrer l'école. Quelque part, on pourrait dire que l'école lui a fait grâce. Elle lui a pardonné ses agissements passés et elle lui a permis de repartir vierge de condamnation en septembre. Les compteurs remis à zéro pour démarrer une nouvelle année. Et croyez-moi, c'était déjà beaucoup. La famille en était bien heureuse. Mais pourtant, malgré cela, je ne peux m'empêcher de me dire que, au fond du cœur des enseignantes qui l'ont retrouvée en ce début d'année, tous les compteurs n'étaient peut-être pas encore vraiment remis à zéro. Le lien avait été tellement cassé dans leur relation mutuelle que les choses ne pouvaient naturellement pas être réparées en un instant, juste par une décision de justice, entre guillemets. Non, les choses ne sont pas toujours si simples. Et c'est d'ailleurs un fait constant. On le sait, on le vit. Le péché, quel qu'il soit, a un impact au-delà de la sphère légale. Oui, le péché, même payé, a un impact sur la relation. Qu'un pardon, même profondément authentique, peut ne pas pouvoir résoudre entièrement. C'est une réalité humaine, je dirais. Il reste bien souvent en nous comme une trace du mal qui a été fait. Mais il n'en est pas de même pour Dieu. Dieu, lui, quand il nous pardonne à la croix, il brise même les conséquences relationnelles du péché. Et il répare ainsi parfaitement le lien qu'on a avec lui. Car quand Dieu nous pardonne, nous lisons, il dit sans ambiguïté, « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » C'est ici, je crois, une dimension relationnelle. Dieu fait volontairement le choix d'effacer entièrement nos fautes, non seulement de ses registres, bien sûr, mais aussi de son cœur. Dieu est celui qui nous dit, grâce à la croix, tu peux maintenant venir t'approcher de moi en parfait innocent légal, mais aussi en parfait innocent de cœur. Je n'ai aucune rancune, aucune amertume, aucune déception, aucun reste, aucune trace, même infime, de tes péchés en moi. Toute trace, en fait, est partie dans la paume de ses mains. Et ici, je crois que c'est encore plus grand. Parce qu'ici, en particulier, on va même pouvoir donner une réponse à tous ceux qui cherchent en vain à trouver le sens de leur vie ailleurs qu'en Dieu. Et peut-être encore une fois que certains d'entre nous sont concernés. Oui, peut-être cherchez-vous le sens de votre vie loin de Dieu, mais pour la simple raison finalement que votre lien naturel avec Dieu, ce sens naturel, a été cassé par le péché. Vous ne regardez pas à Dieu, mais au fond, car votre péché vous en empêche. Oui, l'obscurité de vos fautes vous contraint quelque part, inconsciemment même peut-être, à rester loin de la lumière de Dieu, et vous prive ainsi de la possibilité d'une relation avec lui et de trouver votre sens en lui. Alors, vous cherchez ailleurs. Mais si tel est votre cas, alors regardez à la croix. Car cloué sur ce bout de bois, Jésus a le pouvoir de vous dire « Arrête. Arrête cette recherche vaine et dérisoire. Arrête d'essayer de te nourrir ailleurs qu'en moi. Oui, ton péché a brisé le lien naturel et premier entre toi et moi. Et oui, il a par là même corrompu le sens de ta vie. Oui, mais regarde, regarde ce que moi j'en fais, dit Jésus. Regarde comment je choisis volontairement de l'oublier, d'oublier tes fautes, pour que tu puisses dorénavant t'approcher de moi et de ma lumière, sans crainte, dans une paix complète. Regarde comment je viens réparer notre relation pour que plus rien ne vienne la gâcher et qu'enfin, enfin, tu puisses te remplir de ce qui te rassasira vraiment. Oui, notre mort au péché a effectivement le pouvoir de détruire l'illusion d'une vie qui cherche à trouver son sens loin de Dieu quand elle nous montre simplement que la porte est à présent ouverte pour venir trouver notre sens en lui. Il n'y a rien à ajouter. Le salut que Jésus nous offre est suffisant pour être dans la paix du cœur quand on s'approche du Dieu vivant. Deuxième problème résolu. Ainsi, si je résume, notre dette est payée, car notre péché a été expié à la croix. Et notre relation est recréée, car notre péché a été oublié à la croix. Une dette entièrement payée, une relation entièrement restaurée. Oui, voici en face de nous les aliments savoureux que nous pouvons déguster dès aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'y a rien de plus à faire, rien de plus à rechercher. Tout est accompli. Le salut offert par Jésus-Christ est suffisant. Il n'y a plus qu'à le saisir et à en vivre. Et donc, alors que nous arrivons à la conclusion, se pose maintenant cette question pour nous tous ici. Et une question que je poserai d'abord peut-être à tous ceux parmi nous qui n'ont pas encore accueilli Dieu dans leur cœur, quelle qu'en soit la raison. Qu'allez-vous faire de ce salut de Jésus-Christ? Voulez-vous que chacune de vos fautes, la moindre comme la plus grande, soit infiniment éloignée de vous? Voulez-vous être libéré de la condamnation et du jugement qui pèse sur vos épaules? Et puis aussi, voulez-vous goûter au vrai sens de la vie, celui d'une relation avec votre Créateur, celui d'une relation avec votre Père authentique? Le voulez-vous ou ne le voulez-vous pas? Il n'y a que deux réponses possibles à cette question, en tout cas. Oui ou non. Le peut-être n'existe pas. Mais si votre réponse est oui, alors simplement venez à Jésus-Christ. Son salut suffisant vous promet qu'il détruira pour de vrai l'acte d'accusation qui pèse sur vous et qu'il restaurera pour de vrai cette relation qui pourra vous remplir en profondeur. Et puis, c'est aussi une question que l'on peut également poser à tous ceux parmi nous qui avons déjà saisi le Christ, mais en nous la posant peut-être sous un autre angle, un peu différent. Le suivant. Est-ce que je vis réellement et concrètement la suffisance du salut dans ma vie? C'est-à-dire, l'ai-je vraiment intégré au cœur de mon quotidien et de mes pensées? Juridiquement d'abord. En comprenant bien que si Dieu a lui-même jeté au fond de la mer mes fautes, je n'ai donc aucun besoin, pour je ne sais quelle raison, de laisser le diable les remettre constamment devant mes yeux. Non, ce qui est pardonné est pardonné. Il n'y a plus rien à en dire. Et puis, relationnellement ensuite. En comprenant bien que mon lien avec Dieu est réparé et que je n'ai donc aucun besoin de laisser le diable là aussi me faire croire qu'il pourrait en être autrement, au vu notamment de mes défaillances qui persistent encore. De laisser le diable me faire croire que Dieu va finir par en avoir assez de l'être imparfait que je suis encore et qui tombe encore. Et si mon péché au quotidien, il est vrai, peut toujours me faire tomber, le pardon sans faille, promis par Dieu à celui qui revient vers lui, m'assure inlassablement de la continuité de ma relation quotidienne et profonde avec mon Père. Ce qui est restauré, il n'y a rien à ajouter. Oui, le salut de Jésus-Christ est un si grand salut. Il est gratuit, c'est-à-dire offert par pure grâce. Et il est suffisant, c'est-à-dire à même de nous rassasier en toutes choses. Quel cadeau merveilleux! Et un cadeau qui transforme tout. Et un cadeau qui nous entraîne vers Dieu, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Puissions-nous tous nous saisir de ce cadeau. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.